Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci d'être encore une fois au rendez-vous de l'actualité économique sur Radio de la Paix. L'émission, vous la connaissez, c'est Economia, qui s'intéresse aujourd'hui dans la rubrique Regard sur la politique économique nationale à la relation entre la Côte d'Ivoire et les structures financières internationales telles le FMI et la Banque mondiale. Qu'apporte-t-elle à notre processus de développement? La réponse avec Faustin Onozon, notre expert sur les sujets économiques, dans moins de 5 minutes. Mais avant, vous aurez le sens de quelques termes dans le lexique économique et aussi la dernière articulation de cette émission, les tendances de la bourse avec Cobris. Bienvenue à tous et merci de suivre la fréquence de la paix.
Le lexique économique. Le Fonds monétaire international, FMI.
Le FMI est chargé de trois missions, à savoir promouvoir la coopération monétaire internationale, favoriser l'expansion du commerce et de la croissance économique et décourager les politiques économiques susceptibles de nuire à la prospérité.
La Banque mondiale.
La Banque mondiale, elle, est une institution financière qui accorde des prêts et des dons. La Banque mondiale aide les pays pauvres à financer leurs projets de développement.
La Banque africaine de développement.
La Banque africaine de développement, la BAD, est une institution financière multinationale de développement. Elle est établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains. La BAD, dont le siège est à Abidjan, a été fondée en 1964.
Les pays en voie de développement.
Vous entendez sûrement ce terme, les pays en voie de développement, ce sont les pays dont le niveau de vie, les revenus, le développement économique et industriel sont plus ou moins inférieurs à la moyenne. Ils sont souvent appelés pays du tiers-monde.
La production nationale.
La production nationale est l'ensemble des biens et services produits au cours d'une année par l'économie nationale, à l'exception des services rendus par l'État.
Sur la gestion économique nationale.
Merci de votre fidélité à mes auditeurs. Regard sur la gestion de la politique nationale, un autre sujet avec M. Faustin Onozon. On va parler de ces institutions-là, le FMI, la Banque mondiale et bien d'autres qui sont, à travers leurs représentants, présents dans l'économie dans nos pays. Des fois, ils viennent constamment conseiller. Il y a ce qu'on appelle des programmes. Hein. On va en parler aujourd'hui en termes de relations avec ces institutions internationales qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. M. Onozon, bonjour.
Bonjour. Monsieur Comé.
En tout cas, merci de votre présence. Le FMI, la Banque mondiale sont deux structures qui sont vieilles, on peut le dire, en matière économique, qui sont présentes dans les économies des pays de manière générale, mais c'est surtout des pays en développement. Alors, est-ce que c'est le cas? Parce que c'est des idées qui sont, on peut dire, préconçues, mais des idées qu'on a, que, par exemple, le FMI et la Banque mondiale interviennent beaucoup plus dans des pays en voie de développement, notamment des pays africains. Vous qui êtes économiste, c'est le constat que vous faites?
Non, pas forcément. Ce ne sont pas des institutions qui ont été faites essentiellement pour l'Afrique ou pour les pays en voie de développement. Le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, je dirais même la BAD, qui est une institution africaine. Pour la BAD, on dira, par exemple, qu'elle intervient principalement dans les pays africains. Mais pour ce qui est du FMI et de la Banque mondiale, c'est dans tous les États du monde. Ce sont des institutions qui ont été mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tous les taux de change avaient pris un coup. Il y avait eu pas mal de dévaluations à travers le monde. Et la monnaie était tombée, comme dirait l'autre. Et il n'y avait plus de politique économique et financière viable. Et le monde était en ébullition. Et puis, il y a eu cette guerre, cette Deuxième Guerre mondiale. Alors, le monde entier ne voulait plus commettre les mêmes erreurs. Il fallait créer des structures pour pouvoir corriger certains aspects négatifs de nos différentes économies. C'est ainsi que ces structures ont été créées. Le FMI et la Banque mondiale interviennent dans tous les États du monde, pas seulement dans les pays africains.
Est-ce que, par exemple, le FMI se retrouvera à donner des conseils en termes d'orientation, de gestion à ces pays qu'on considère comme développés? Est-ce que ce n'est pas, dans la conception de beaucoup, une preuve du capitalisme? Je me fais le porte-voix de certains auditeurs.
Oui, merci. Et là, d'abord, il faut savoir ce que font ces institutions.
Oui, c'est cela.
Le Fonds monétaire international, par exemple, est une institution dont les principales activités sont axées sur la gestion des balances de paiement. C'est-à-dire que dans le cadre de votre processus de création monétaire interne, si vous avez des difficultés, c'est-à-dire si vous n'avez pas de devises pour garantir ce processus de création monétaire au plan interne, vous adressez au Fonds monétaire international. C'est leur principal rôle, ça. Et ils viennent vers vous. Nécessairement, quand ils viennent, il y a certains paramètres macroéconomiques qu'ils doivent observer. Ce sont ces paramètres qui vous permettent d'avoir un solde monétaire positif. Il y a, par exemple, au niveau interne, nous avons le PIB, qu'on appelle la production nationale, le produit intérieur brut, qui dépend de certains paramètres macroéconomiques, tels que l'investissement, la consommation et le solde du commerce extérieur. Et donc, on sait que c'est à travers ces paramètres macroéconomiques qu'on réalise une épargne vis-à-vis de l'étranger, cette épargne qu'on appelle devise. Oui. Et qui viennent garantir la valeur externe de notre monnaie. Alors, si vous n'avez pas de devises, c'est qu'au plan interne, vous avez des difficultés. C'est qu'en matière d'équilibre interne, vous avez des difficultés. Donc, quand le fonds arrive, c'est ces différents paramètres que le fonds observe. C'est ces différents paramètres que le fonds essaie de contrôler pour voir d'où proviennent vos difficultés.
Lorsqu'une délégation du FMI se retrouve dans un pays, comment on doit considérer cela? Ce sont des conseillers en termes de gestion, d'orientation? C'est un regard extérieur qui vient vous encourager? Deux fois, certains pays sont heureux d'avoir, par exemple, le satisfecit de telle institution. Est-ce qu'on a besoin d'eux pour montrer qu'on est assez efficace au plan économique?
Ah oui, c'est un peu comme la Banque centrale. C'est une institution supranationale. La Banque centrale aussi vient au niveau de nos différents États pour voir comment est-ce que nous gérons nos politiques économiques et financières, surtout en matière de gestion de la demande proactive, puisque c'est cette demande proactive qui entraîne une variation positive de la production nationale. Donc, nous appartenons tous au Fonds monétaire international. Il y a des pays qui n'ont pas voulu appartenir à ce Fonds monétaire international. Et puis, il y a eu la pandémie du coronavirus. Et ces pays, aujourd'hui, demandent à ce Fonds monétaire international des sommes assez éloquentes pour pouvoir gérer au mieux leur balance des paiements. Donc, on appartient tous au Fonds monétaire international. On n'a pas forcément besoin d'avoir une difficulté majeure. Qu'on ait une difficulté ou qu'on n'en a pas, la présence du fonds est nécessaire. Le fonds est une organisation supranationale. Donc, cette structure a pour mission première de faire en sorte que nos pays se portent tous bien. Dès lors où il y a des difficultés quelque part, c'est comme des signaux. Mais ils viennent vers vous pour vous dire, fais ceci, fais cela. Mais cela ne veut pas dire que ce sont eux qui gèrent nos économies.
Il y a des collaborations entre ces pays, notamment la Côte d'Ivoire et le FMI. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, il y a par exemple un nouveau programme économique et financier qui est en discussion avec le FMI. Le troisième programme depuis la session au pouvoir du président Alassane Ouattara. Justement, quels sont les éléments qui sont dans un programme économique et financier qui a le regard du FMI?
Ce sont les éléments qui entraînent une gestion positive de la production nationale.
Lesquels, par exemple?
Oui, en matière de gestion d'une production nationale, ce qu'on appelle le PIB, c'est la variation de ce PIB qui entraîne le taux de croissance macroéconomique. Dès lors, vous avez un taux de croissance macroéconomique qui est toujours positif, vous recevez le satisfecit du Fonds monétaire international. Et quand ils viennent, généralement, ils mettent l'accent sur le niveau de vos investissements. Vous savez que l'investissement, c'est l'élément déclencheur de la gestion d'une demande proactive. C'est à partir de cette demande proactive, c'est-à-dire l'investissement et la consommation, qu'une fois développée, elle entraîne une variation positive de la production nationale. Et cette demande proactive entraîne aussi une variation positive du sort du commerce extérieur. Donc ce sont ces différents éléments, lorsqu'on est en programme avec le fonds, qu'on vient et qu'on regarde. Chaque année, on dira par exemple, de telle année à telle année, on va faire tel ou tel investissement. Ça peut être un investissement qui concerne les routes, ça peut être un investissement qui concerne les hôpitaux, ça peut être un investissement qui concerne la matière grise, etc., etc. Ça peut être un investissement qui a un rapport direct avec les emplois. Quand on constate que le niveau des emplois baisse, on mettra sur pied tel ou tel investissement, par exemple, pour pouvoir relever le niveau des emplois. Donc, c'est tous ces aspects que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, parce qu'elle s'occupe de la politique d'offre. Quand vous voyez les routes, les hôpitaux, et vous voyez des écoles qu'on construit un peu partout, ça, c'est du ressort de la Banque mondiale. Mais par contre, la gestion de la balance des paiements, ça, c'est du ressort du Fonds monétaire international. Mais les deux aptitudes sont liées.
Les deux sont liées. Alors, de votre regard, en tant qu'économiste, la Côte d'Ivoire a décidé d'être un pays modèle en matière de gestion en ayant les conseils des structures internationales, le FMI, puis la Banque mondiale et la BAD aussi. De votre regard, ces différents programmes élaborés ont permis au pays d'avoir quoi concrètement en termes d'évolution économique?
D'abord, lorsqu'on a un programme avec le fonds, il y a une gestion, j'allais dire, harmonieuse de notre production nationale. Parce qu'au bout, la variation de la production nationale.
Et la production nationale qui est, pour expliquer un peu simplement.
Oui, c'est un peu comme si on disait votre salaire. Si vous avez votre salaire qui évolue chaque année, mais je crois que si tel était le cas, ce serait nettement mieux pour vous.
Vous mais sentez à contrario, que si votre richesse augmente.
Augmente. À contrario, si vous avez un salaire qui diminue, c'est que votre richesse diminue. Vous, votre richesse, c'est votre salaire.
Oui.
Et la richesse nationale, la richesse de l'État, mais c'est la production nationale. Et donc, quand ces institutions arrivent, c'est de voir. C'est vrai que chacun intervient dans un cadre spécifique, mais au bout de ce cadre, qu'est-ce qu'on recherche? C'est une production nationale qui augmente. Voilà. Et nous, depuis pratiquement 2011, notre pays a eu une variation positive en moyenne de 6 ou 7%. Et nous, c'était la pandémie du corona qui a entraîné 2% en 2020, je crois. Et on serait certainement à un taux de 8 à 8,5% sur près d'une dizaine d'années. Voilà un peu ce que ces institutions viennent regarder. Et comme on est en programme avec ces institutions, lorsqu'elles constatent que si c'est au niveau de la consommation qu'il y a des difficultés, mais si s'il vous faut des prêts pour pouvoir développer la consommation, mais il va vous donner ses prêts pour développer la consommation. Mmh. Si c'est le sort du commerce extérieur qui présente quelques difficultés, cela veut dire que vos exportations connaissent des difficultés. Alors, s'il faut aider les entreprises privées ou publiques, c'est leur rôle, en fait, d'apporter une aide notable pour que cette structure puisse avoir des exportations assez importantes pour que la première ligne d'abandon des paiements soit cohérente. Parce que si elle n'est pas cohérente, cela aura des répercussions négatives sur le sort monétaire. Voilà un peu ce que font ces institutions. Donc, d'un côté, le fonds qui s'occupe de tout ce qui est banque des paiements, et de l'autre côté, la Banque mondiale, ou alors la BAD, qui s'occupe nécessairement de la politique d'offre.
Alors donc, on ne doit pas percevoir ces structures-là comme étant des structures qui interviennent quand vous avez des difficultés, par exemple, vous êtes en recherche d'argent.
Monsieur Koumé, c'est un peu comme si vous dépendiez d'une banque dans le cadre de la gestion de vos activités personnelles. Et cette banque a le droit, sinon même à le devoir, de voir un peu comment est-ce que vous gérez vos activités. Quelque part, il se pourrait qu'avec certains cas de force majeure, que vous n'arrivez pas au bout de votre activité. Mais la banque est censée remarquer cela et vous donner la force financière nécessaire pour que vous puissiez gérer au mieux cette activité. Mais c'est exactement la même chose avec ces institutions de Bretton Woods. Leur objectif, c'est de permettre aux pays membres d'avoir une variation positive de leur production nationale. Et avoir cette variation positive, c'est nécessaire. Gérer au mieux tout ce qui est consommation, tout ce qui est investissement et tout ce qui est soit du commerce extérieur. Mais on ne peut pas les gérer sans apport extérieur aussi. Si cela nécessite des apports extérieurs, ces institutions sont là. Ce sont des prêts que ces institutions font généralement aux pays membres. Lorsque vous n'êtes pas membre, on ne peut pas vous faire ce prêt.
C'est cela. Lorsqu'on n'est pas membre, on ne vous fait pas le prêt, effectivement. Mais il y a un aspect justement qu'il faut enlever aussi de la tête donc, des citoyens. Il est arrivé de fois où nos autorités l'ont dit sous conseil ou suggestion du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, on a eu à prendre des politiques drastiques, les ajustements structurels pour mémoire. Mais est-ce que ça a été une politique nécessaire à l'époque pour relancer les économies, de votre avis?
Mais c'est assez simple, M. Koumé. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, et que il n'y a personne certainement pour vous le dire, vous allez continuer. Mais dès lors, vous êtes dans le cadre d'une institution. Si c'est cette institution qui vous permet de gérer au mieux vos activités, mais elle vous dira non. Et vous dépensez plus que vous ne gagnez. Donc, il faudrait que vous mettiez sur pied une politique d'équilibre. Voilà. L'équilibre, ce n'est pas seulement à un niveau personnel. L'équilibre, c'est aussi à un niveau macroéconomique. Lorsque vous avez votre demande globale, qui est largement supérieure à votre offre, mais il va sans dire que vous avez besoin d'apports extérieurs. Mais si votre économie n'est pas habilitée à vous donner ces apports extérieurs, mais il faut réduire vos dépenses respectives. C'est exactement ce que font ces institutions, telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, elles ne viennent pas pour nous contrarier, non. Loin de là. Je pense que ce sont des institutions même qui, pour ma part, si elles n'étaient pas dans le paysage économique et financier mondial, le monde serait déjà perdu. Voilà, et on verrait des politiques économiques et financières incohérentes. On allait voir des paramètres macroéconomiques virer tout le temps rouge.
On a entendu des dirigeants dans le monde de fois dire, bon, voilà, on peut avancer sans l'aide du FMI.
Ouais, mais qu'est-ce que ces pays-là sont devenus avec la pandémie qu'il y a eu? Ce sont ces pays-là qui courent aujourd'hui vers le Fonds monétaire international. Voilà, donc on ne peut pas se séparer de ces institutions. Il vaut mieux appartenir à un groupe que d'être seul. Voilà, il y a l'un de nos responsables qui disait que le groupe est toujours plus fort que le plus fort du groupe. Donc appartenir à un groupe serait beaucoup plus important que d'être isolé. Et vous allez subir des pleins fouillés et tous les déséquilibres macroéconomiques au niveau de votre économie. Or, appartenir à des institutions viables comme le FMI et la Banque mondiale et même la BAD, cela vous permettra de gérer au mieux non seulement vos transactions financières avec l'étranger, mais d'avoir une variation positive de votre production nationale.
En tout cas, merci à vous, Monsieur Faustin Nozon. Relations entre les pays, notamment la Côte d'Ivoire, et les institutions donc internationales, le FMI, la Banque mondiale, la BAD, hein, bien sûr, et la BOAD. Il y en a tellement, justement. Ce sont des structures qui permettent à nos pays de mieux se développer, de mieux orienter donc leur stratégie économique. Et voilà, c'est ce que notre expert en questions économiques et en intelligence économique nous a donné comme information. Monsieur Faustin Nozon était avec nous encore aujourd'hui. Merci. De fidélité.
Tendance de la bourse.
Si vous nous suivez dans le cadre de cette émission, vous avez l'occasion chaque fois d'écouter M. Kouaobris, qui est notre consultant sur les questions boursières et questions économiques de manière générale. M. Kouaob, bonjour.
Bonjour M. Komi, bonjour à tous les auditeurs.
Nous parlions de cette opération de titrisation des créances. Vous avez expliqué qu'est-ce qui amène une entreprise à choisir donc cette opération. Il y a certaines obligations en termes réglementaires, et donc à la recherche des ressources, on peut vendre à d'autres personnes nos créances. Alors, vous avez parlé d'un fonds commun qui a racheté en principe ses créances. Alors, ce fonds commun, c'est quoi ?
Bon, déjà, au départ, il y a NCA qui était créancier sur un ensemble de clients. Donc, il détenait des créances et les clients ont des dettes. NCA sort ses créances et les revend au fonds commun de titrisation. Donc, au lieu de devoir à NCA Bank, les propriétaires en griffe des crédits sélectionnés là, ils doivent maintenant au fonds commun de titrisation. Je crois qu'ils sont 1000 et quelques. Donc, au début, ces personnes, ces entités doivent à NCA. Deuxième partie de la procédure, ces personnes ou entités doivent maintenant au fonds commun de titrisation. Le fonds commun de titrisation, pour obtenir ces créances là, doit les racheter à NCA. Donc, c'est le fonds commun de titrisation qui a levé les fonds sur le marché financier. Donc, quand on dit NCA lève les fonds, en fait, c'est pas tout à fait correct. C'est le fonds commun de titrisation qui s'appelle NCA qui a levé les fonds. Peut-être la difficulté, c'est qu'ils ont donné le même nom aux deux. Donc, ça va faciliter la compréhension. Mais c'est le fonds commun de titrisation qui a levé les fonds sur les marchés financiers, 40 milliards, qui les a donnés à NCA Bank pour acheter le portefeuille de crédit. Donc, ce qui se passe, c'est que le troisième groupe, les investisseurs, sont justement créanciers du fonds commun de titrisation et non d'NCA. C'est le fonds commun de titrisation qui leur doit. Le fonds commun de titrisation leur rembourse les fonds comment ? À travers le recouvrement des créances qu'ils ont ainsi collectées. Pour cela, ils ont besoin d'un agent de recouvrement. Comme je dis, tout ça, ça n'a pas facilité la compréhension. Ils ont pris comme agent de recouvrement NCA Bank. Bon, donc ça fait que NCA revient souvent dans la présentation de l'opération. Pourtant, NCA n'est plus lié juridiquement à ses créanciers.
Revenons un peu à ces acteurs. Le fonds commun de titrisation, c'est une structure de la BRVM ou qui est créée justement pour cette opération?
C'est une structure qui est créée pour cette opération-là. Il y a même un commissariat au compte qui lui est affecté. Donc, il va rendre compte progressivement de sa santé. Donc, pour pouvoir voir justement est-ce que l'entité est toujours solvable, est toujours capable de faire face à ces gens. La BRVM n'est pas lié à ça. La BFM, c'est juste en fait une administration qui crée un cadre dans lequel des opérations de marché ont lieu, mais n'est pas juridiquement engagée sur la qualité des titres qui sont émis, de sorte qu'on puisse lui dire non, comme c'est chez toi qu'on achète un titre qui a contre-performé, tu nous dois quelque chose. La BFM n'est pas garante de la qualité des actifs.
Justement, quels sont les avantages pour les investisseurs qui viennent acheter, justement, par le biais de ce fonds commun de titrisation, les titres que propose, disons, cette structure?
Déjà, il faut savoir que pour un investisseur, l'intérêt d'aller chez un marché financier, c'est de mieux rentabiliser une épargne. Donc, c'est de comparer le taux de cette épargne-là au taux de placement classique qu'il aurait eu. NCA a proposé, je crois, 7%. Le taux d'épargne classique à NCA Bank, ça c'est un très bon cas. Donc, le fonds commun de titrisation d'NCA propose 7%. La banque NCA, en tant que banque, propose au grand public 3,5%, ainsi que toutes les autres banques. Donc, en tant que client, vous apprenez que une entité créée par NCA pour les besoins de tout ce qu'on a expliqué va vous servir 7% l'an à peu près, contre 3,5% si vous êtes simplement client. Déjà, vous voyez que vous êtes un rapport du simple au double. Déjà, maintenant, il y a aussi le fait de pouvoir récupérer sa liquidité plus vite. Souvent, quand on parle de cette opération, on dit oui, mais le taux est semblable au taux des obligations d'État, 6,90. Donc, pourquoi prendre un risque avec une entité privée alors que l'État propose un taux analogue? Il faut savoir que les remboursements d'État sont des remboursements à annuel. Donc déjà, NCA a prévu un remboursement trimestriel. Ça permet à la personne de récupérer son capital plus vite que d'attendre chaque année pour un amortissement du capital. Donc, je dirais meilleur taux par rapport au support du placement classique et meilleure liquidité par rapport au support obligataire classique.
Ça, c'est pour l'avantage des investisseurs. Mais quelles sont les conséquences éventuelles de cette opération?
Bon, en termes de conséquences, c'est conséquences pour qui?
Conséquences déjà pour l'investisseur.
Comme je l'ai dit, le surdimensionnement, les crédits de secours et puis la ligne de liquidité sont les mécanismes mis en place par NCA pour qu'au final, les fonds soient mobilisés. On parle quand même de 40 milliards et en face 63, voire 65 milliards de ressources. Donc, on se dit que même s'il doit avoir des défauts, même si les défauts sont de 10% par miracle, vous savez que nos banquiers, quand même, ils sont très prudents de la sélection des crédits. Donc, ils ont plutôt des crédits performants. Mais le taux de déférence, il est de 5%. Là, on parle d'un surdimensionnement plus le crédit de secours plus la liquidité qui nous mène dans un rapport quasiment de 50%. Donc si vraiment il y a des défauts, il faut qu'ils soient quasiment sur la moitié du portefeuille pour qu'on ait un risque de ne pas payer le capital des gens. Maintenant après, ça reste une opération de marché. Donc moi, je ne vous dirai pas que c'est sûr à 100%, personne ne vous le dira. C'est une opération de marché. Chaque fois qu'un investisseur s'engage sur une opération de marché, il doit être conscient des conséquences éventuelles. Mais vu qu'il s'agit d'une obligation, donc les gens s'obligent à rembourser le capital et les intérêts. Donc même s'il y a toutes sortes de problèmes, ne serait-ce que pour le nom, peut-être qu'ils vont venir au secours de leur fonds commun pour pouvoir être capable de revenir dans 2-3 ans. Sinon, si une fois tu as levé les fonds, ça s'est mal passé, mais tu es blacklisté. Surtout sur notre marché de gens qui ne connaissent pas l'activité, qui ont fait confiance pour placer 40 milliards, si tu ne reviens pas leur rendre leur argent, tu lèves plus de fonds.
En tout cas, il faut s'habituer à cette opération, à la titrisation donc, des créances. C'est une manière pour nous aussi d'attirer votre attention quant à une possibilité d'investissement. Voilà, à travers donc, ces fonds communs de placement aussi. Monsieur Kouaou, merci infiniment pour toutes ces informations que vous nous avez communiquées.
Merci Monsieur Koumi, merci à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, mes auditeurs, c'est terminé en ce qui concerne les tendances de la bourse. On se retrouve avec beaucoup de plaisir avec Monsieur Kouaou encore pour d'autres sujets. Allez, portez vous bien, au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.